Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui. Elle. Lui.
D'actuel.
Et lui.
Bien, ben voilà, on se retrouve en direct, vous voyez, donc il y a des petits défauts du direct, pour un nouveau numéro d'Actuel et lui, voilà, premier de cette saison, avec ben, toujours Anne-Marie.
Coucou.
Et Aurélie.
Bonjour.
Voilà. Et puis toi, Guillaume.
Et oui, toujours. Hein, bonjour à tous.
Le trio infernal.
Oui, alors, infernal, je ne sais pas, mais en tous les cas, effectivement, on va essayer de vous continuer cette année, de vous faire découvrir des choses un peu légères, sympathiques.
Et légères, donc... plus ou moins, en tout cas, sur plusieurs thématiques, avec l'envie de partager un bon moment.
C'est ça, voilà. Et alors, à noter que vous réentendrez cette émission trois fois maintenant, puisqu'on la réentendra le mardi soir, une première fois, le jeudi suivant à 12h30 et le mardi suivant à 18h11. Voilà.
Donc, les auditeurs seront incollables.
C'est ça, sur nos chroniques.
Voilà. Sur nos sujets, oui.
Bien, et on va commencer peut-être par déjà faire un peu le tour de nos sujets d'aujourd'hui. Aurélie, de quoi tu nous parleras en troisième partie ?
Pour moi aujourd'hui, une chronique culinaire, je vais vous parler du thé matcha.
Ah, suspense.
Là, je ne vous dis pas la tête que font mes collègues, Anne-Marie et Guillaume.
Il faut dire qu'on a des...
Le thé matcha, ça leur parle pas.
On a quelques trucs sur la table.
On a des spécimens sur la table.
Qui sont verts,
voilà,
pour
c'est
tout
un
dire.
Peu vert, oui, c'est ça.
Et toi, Guillaume, de quoi vas-tu?
Je vais vous parler, je vous l'avais déjà promis, hein, la rentrée télé. Voilà. Et toi, Anne-Marie?
Okay. Eh bien, moi, je vais vous parler beauté. Voilà,
ça sera eh bien,
sur la beauté.
On commence tout de suite, Anne-Marie?
Ça marche, allez. Alors justement, je vais vous parler de la célébration d'un centenaire, pas celui de la Première Guerre mondiale, pas non plus celui de la loi de 1913 sur la protection des monuments historiques, comme me l'avait suggéré Aurélie. Encore moins vous parler du centenaire de la naissance de Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Non, je veux juste vous faire un petit clin d'œil, faire un clin d'œil à l'un des incontournables de nos sacs à main. Enfin, pour vous, mesdames, principalement, à savoir le mascara. Vous l'aurez compris, cette année, ce produit de beauté fête ses 100 ans.
Alors, c'est quoi le mascara?
Oui, alors Guillaume, sache qu'en espagnol ou en portugais, mascara veut dire masque. Le mascara se compose d'un tube contenant le produit colorant et d'une brosse. Le principe est donc de tremper la brosse dans le produit, puis d'en appliquer sur les cils. Alors, bon, Guillaume, toi, tu pourrais me demander à quoi ça sert. Mm-hmm. En fait, les femmes et certains hommes...
Je pourrais.
Oui, tu pourrais.
Et tu as très envie de savoir à quoi ça sert.
En fait, donc, les femmes et certains hommes, hein, puisqu'il existe aujourd'hui des mascaras pour la jante masculine. Je ne sais pas si toi, tu t'en es déjà servi.
Le top coat de l'œil, tu vois.
Exactement. Eh bien, donc, les femmes et les hommes se servent de ce produit cosmétique pour sublimer le regard en épaississant les cils, par exemple, ou en les allongeant. Le mascara, c'est le secret par excellence pour créer le fameux œil de biche. Et cette envie de créer un regard de braise ne date pas d'aujourd'hui, même si ce n'était pas toujours le côté esthétique qui prévalait. Selon le site féminin essentiel.bi, le maquillage des yeux concernait hommes et femmes sans distinction dans l'Égypte antique. Les yeux, considérés comme la fenêtre vers l'âme, étaient fardés au crayon noir et une pâte était appliquée sur les cils. Ce masquage permettait ainsi à l'âme d'être protégée contre les mauvais esprits et les énergies négatives. Ce maquillage est ensuite repris par les Babyloniens, les Grecs et les Romains. De longs cils sous la Rome antique prévalaient comme signe de chasteté. Les femmes s'appliquaient au niveau des cils une pâte à base de pétales de rose brûlée, de noyaux de date et de suie afin de rendre leur regard plus intense.
Donc ce petit historique que tu viens de nous faire, 100 ans, c'était un peu plus long que ça. Ça fait pas 100 ans que ça existe.
C'est une arnaque cet anniversaire.
Alors effectivement, depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours trouvé la parade pour noircir leur regard. Mais pas avec le mascara que l'on connaît aujourd'hui, mais plutôt avec un lointain ancêtre. Et vous allez le constater, à l'époque, on n'utilisait que des produits forcément très naturels. Hein. On prenait ce qu'on avait sous la main. Je cite la source préférée de notre
officielle.
Cher ami
ouais, alors,
Guillaume.
Attends, la source après avoir cité essentiel.be, hein, Je pense que, bon, voilà.
Non, mais c'est, en tout cas, on la cite souvent, cette source.
Voilà.
Voilà. Donc, selon Wikipédia, dans l'Antiquité, les Égyptiennes utilisaient une mixture à base d'amandes calcinées réduites en poudre, du miel et de la fiente de crocodile, alors que les Romaines se maquillaient avec un produit composé de pétales de rose cramée, comme on l'a vu, de dattes et d'antimoine. Fin de citation. Alors, juste pour rappel, l'antimoine, c'est un corps solide qui se rapproche beaucoup de l'arsenic,
oui, du poison.
C'est pas quelqu'un qui était contre les moines.
Non.
Non, mais c'est un poison assez violent. Donc, voilà.
Voilà.
Donc, sympa de se le mettre dans l'œil.
Exactement.
T'as pas intérêt de te rater.
Il faut ensuite attendre le 19e siècle pour connaître le cousin germain du mascara, Eugène Rimmel.
Ah, le nom.
Chimiste et parfumeur français, immigré en Grande-Bretagne, qui invente en 1880 le rimmel composé d'un distillat de pétrole et de vaseline. Le phénomène est tel que le mot rimmel est donc passé dans le langage courant. Hein, même encore aujourd'hui, on parle de rimmel quand on veut parler de mascara. Oui. Donc, quelques années plus tard, talan, en 1913, il y a donc bien 100 ans, un autre chimiste, Williams, invente le mascara moderne composé de poussière de charbon mélangée à de la vaseline, le tout conditionné dans un tube.
Alors, pourquoi cette création ?
Eh bien, il a voulu créer ce produit pour masquer les cils et les sourcils abîmés de sa sœur dans un incendie. Et côté anecdote, sa sœur s'appelait Maybelle, nom qui a donné naissance au mot et surtout à la future marque Maybelline, appartenant aujourd'hui au groupe L'Oréal, Maybelline, résultant de la contraction de Maybelle et de Vaseline. Voilà.
Ça c'est sexy. Hein.
Non, mais n'empêche que vous aurez appris.
Oui, bah, c'est sûr, parce que franchement, moi, je savais pas. Si on... Je connais la marque Maybelline, effectivement, mais jamais je m'étais demandé d'où ça pouvait venir. Donc ça, c'est le début du succès, en fait, dès que le tube apparaît.
Exactement. Et pas fou, le chimiste Williams veut commercialiser ce produit. Et pour ce faire, il va quand même le transformer. Parce que vous vous doutez bien que la poussière de charbon avec de la vaseline, ça pique quand même les yeux. Alors moins que l'antimoine, hein, soit, mais quand même. Alors en 1917, il met au point un petit pain noir solide enfermé dans un boîtier. Il est alors composé de colorants et de cire de carnauba, une cire végétale. Pour utiliser ce mascara, il faut alors humidifier la brosse avec sa salive, par exemple. Mmh. Énorme succès. Alors, toujours selon le site Essentiel, la demande explose durant les années 20. Grâce au cinéma, les acteurs deviennent des stars internationales et les étoiles du grand écran symbolisent un idéal de beauté pour des millions de femmes et sont donc enviées pour leurs cils infinis et noirs. C'est le boom du maquillage de manière générale et il n'y a pas que le mascara qui y connaît son heure de gloire. Fin de citation. Il ne faut pas non plus oublier qu'à cette époque, les films sont en noir et blanc. Le mascara est donc le meilleur ami des stars pour les sublimer. Mais il y a quand même deux gros points noirs, même si effectivement, je dis que c'est le meilleur ami des stars de cinéma. Alors premièrement, les produits qui composent le mascara sont fortement irritants pour les yeux et finissent par nuire à la vue. Et deuxièmement, le mascara a plutôt tendance à couler à cause de la chaleur ou de la transpiration. Voilà, donc par exemple, pour les stars de cinéma, c'est vrai que sur les plateaux télé, il fait généralement très chaud. Donc, ils devaient faire plusieurs prises, je suppose, pour leur jeu, mais aussi parce que voilà, le maquillage coulait. Et les formules ne cesseront d'évoluer donc, au cours de ce XXe siècle. La version actuelle du mascara est lancée en 1957 par une femme, évidemment, par Elena Rubinstein, une industrielle polonaise qui va également donner donc, son nom à une marque de cosmétiques.
Très célèbre.
Oui. Et en 1988, Max Factor, un autre nom devenu également une marque, invente le premier mascara incolore. Personne n'y avait pensé avant lui. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le mascara transparent est assez intéressant. Il coiffe bien les cils et les maintient en place avec un effet naturel.
Alors aujourd'hui, le mascara a quand même bien évolué.
Oui, alors surtout au niveau des formules, on est bien loin des fientes de crocodile.
C'est plus dur à trouver aussi.
Encore heureux. Alors désormais, le mascara contient de l'eau, des épaississants, des agents filmogènes, des colorants et des conservateurs. On trouve aussi des mascaras waterproof qui résistent donc à l'eau. Une petite invention datant quand même de 1939. Hyper pratique puisque vous pouvez rester maquillé au bord de la piscine ou verser une petite larme sans que cela ne se voie. Les types de mascara se déclinent à l'infini. D'abord au niveau de la couleur, vous avez le noir de base, le bleu électrique, le prune ou le brun, Toi, par exemple, Aurélie, t'es plus...
Ah, je peux être prune ou brun. Bleu électrique, non, jamais.
Non.
Mais c'est une question de goût.
Mm-mm. Oui, non, mais c'est sûr.
Et puis peut-être quand on a les yeux bleus. C'est vrai que c'est... ça fait peut-être meilleur effet.
Guillaume,
bah, lui, il a les yeux bleus. Il pourrait mettre du mascara bleu électrique.
Il faudrait quand même qu'on m'explique pour les hommes quel est l'intérêt. Hein.
Et bien, pareil.
Bah, quel est l'intérêt ? Il y a certains hommes qui prennent, enfin, qui mettent du fond de teint, qui mettent du crayon noir aussi sur leurs yeux. C'est aussi une façon de, encore une fois, de sublimer le regard. Voilà.
Voilà. Le regard mystérieux, sexy.
De mettre
sexy,
en avant des beaux yeux, enfin, quand on en a. Enfin, on en a toujours deux, mais il faut qu'ils soient beaux, quoi. Normalement constitué. Alors, différence aussi dans le résultat. Le mascara peut épaissir vos cils ou les allonger ou encore les recourber. Mieux, il existe désormais des mascaras à double embout. Un côté qui permet de passer une couche blanche pour allonger le cil. De l'autre côté, on applique une couche noire pour gainer et colorer le cil.
Oui, c'est vrai que souvent, le bout, en fait, il est blond. Ce qui fait que quand on le gaine de noir, on obtient vraiment plus de longueur.
Exactement. T'as tout compris. Et on sent que le matin...
Je m'examine l'œil le matin.
Tu passes du temps avec le mascara. Alors, par ailleurs, des marques Inoff pour votre confort. En clair, comme les cheveux, il faut nourrir les cils. Et là, on retrouve des composants comme de la cire de carnauba et de la lécithine de soja. C'est un lipide présent dans les tissus végétaux. Plus farfelu, on trouve des mascaras parfumés, des mascaras à paillettes, des mascaras pour les cils inférieurs et même des mascaras avec brosse vibrante. Mais là, ne me demandez pas à quoi ça sert. J'en ai aucune idée. Peut-être que ça permet de mieux appliquer le mascara.
Moi, je connaissais brosse chauffante aussi.
Bien.
Avec toutes ces nouveautés et ces spécificités, pas étonnant que le mascara se vende comme des petits pains. 1 milliard par an dans le monde. À titre de comparaison, le tube de rouge à lèvres, c'est 800 à 900 millions d'unités vendues chaque année dans le monde. Et voilà, il faut savoir que dans les parfumeries, le mascara est le cosmétique qui connaît la plus forte croissance des ventes ces dernières années.
Voilà, si je voulais m'y mettre, est-ce que tu aurais quelques conseils pour appliquer le mascara ?
Alors, selon la forme des yeux, Guillaume, mieux vaut parfois ne pas mettre de mascara sur les cils du bas. Cela peut plomber un regard. Après, ça peut aussi très bien aller à certaines personnes. Je sais que toi, par exemple, Aurélie, tu aimes bien.
Oui, j'applique
voilà.
En bas.
C'est vrai que ça agrandit un petit peu ton regard pour le coup.
Et voilà.
Par ailleurs, il faut appliquer, enfin, c'est bien d'appliquer, c'est mieux, on va dire, d'appliquer en zigzag le mascara pour bien gainer chaque cil. De la racine à la pointe.
Bon, depuis qu'Anne-Marie prépare sa chronique, j'essaye, mais j'arrive pas. Hein. Je me fous toujours le truc dans l'œil pour l'instant. Donc, je gagne un cocard, mais pas du tout, pas du tout d'effet.
Alors sinon, si vous avez des cils peu recourbés ou courts, utilisez un recourbe-cil. Hein. C'est un petit instrument qui permet d'ouvrir le regard. Voilà, personnellement, je ne suis pas fan, mais bon, après...
Oui, puis je pense que si Guillaume le voyait, ça lui ferait super peur, donc il ne tenterait pas.
Et donc, ça veut dire le soir, on se démaquille des yeux ?
Ah oui, mais après, bon, enfin, je ne l'ai pas noté, mais parce qu'effectivement, c'est pour tout, que tu te mettes du fond de teint, du rouge à lèvres, etc.
Impératif, peu importe l'heure à laquelle tu rentres.
Oui, voilà, il faut bien se démaquiller tous les jours, même le matin, hein, au réveil, hop.
Ça se prépare. Okay.
Et donc, par contre, cet anniversaire, on n'en entend pas vraiment, vraiment beaucoup parler.
Et oui, tu as raison, Guillaume. J'ai découvert cet anniversaire en regardant un JT il y a quelques jours. Personnellement, je n'ai pas vu de publicité particulière en parfumerie.
Non, moi non plus.
Hein, pourtant, j'y vais quand même de temps en temps. Je n'ai rien vu. Donc, à croire que ce centenaire n'est pas réellement un élément marketing, ils n'en ont peut-être pas forcément besoin. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Voilà, après, ça va avoir révolutionné notre quotidien, hein, qu'on soit bien clair, bien sûr.
Ouais.
Mais
Ou alors, ils auraient pu ressortir des... Parce que du coup, moi, j'ai découvert le mascara solide là, dont tu m'as parlé.
Le cake, là.
Voilà, le cake.
Bon, alors maintenant, tu baffes plus dessus, bien sûr, mais...
voilà, effectivement, ça m'a bien rassurée quand tu m'as dit qu'on utilisait de l'eau de bleuet ou de l'eau de rose plutôt que cracher dedans, oui, c'est sûr. Mais c'est surtout que ça aurait pu être rigolo. Il y a certaines marques qui surfent, je pense à Benefit, par exemple, qui surfent vraiment sur le côté un peu rétro.
tout à
et
fait.
Et c'est vraiment le genre de truc qu'ils auraient pu ressortir en s'appuyant sur ce.
Ou peut-être qu'ils l'ont fait d'ailleurs, mais que c'est passé inaperçu parce qu'on n'a pas vu de publicité et que ça ne nous a pas marqué.
Et oui. Parce que contrairement à ce que dit Nico, on ne reçoit pas des tonnes de produits des marques pour qu'on puisse les tester.
Bah, rien du tout, même.
Mais rien du tout. Donc justement, en fait, on ne sait pas. Voilà.
Bien, ben voilà, l'appel est lancé.
Voilà. Si non, quelqu'un veut nous envoyer des échantillons. Voilà.
Bien, Anne-Marie, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter maintenant ?
Alors, mon choix musical se porte sur Lipstick de Daniel Balavoine, hein, et ce pour deux raisons. Alors, la première, Lipstick, c'est du rouge à lèvres, donc on reste dans la thématique
maquillage, ouais.
Maquillage voilà, beauté. Et puis, la deuxième raison, c'est Martine, la maman d'Aurélie, qui m'a soufflé cette idée, non ? C'est pas ça, Aurélie ?
Je sais plus. Non, si c'était pas Biche ou Mabiche qu'elle avait soufflé ?
Ah, je ne sais plus. Bon, enfin, c'est pas grave. Oups. On peut dire quand même voilà. Que c'est Martine, puisque Martine est l'une de nos plus fidèles auditrices quand même. Et donc, je voulais lui faire voilà, ce petit clin d'œil et la remercier de nous écouter.
Voilà, bah, c'est dit.
On écoute.
Lipstick pour les hommes. Oh, oh.
tu,
elle
et lui. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie d'Actuel et lui dans notre studio de la Place au Blé. On est en direct aujourd'hui pour cette première émission de l'année. Et puis, comme on va vous parler de... Enfin, Aurélie va vous parler de thé dans quelques minutes. Alors, nous, on a le thé qui commence à infuser.
Mais c'est pas trop vert, là.
Oui, c'est... Bon, c'est peut-être que l'eau est peut-être pas assez chaude. Mais ouais. Voilà, on vous tient au courant dès qu'on...
Si on est malade.
Voilà.
C'est du thé vert, donc ça infuse doucement, Guillaume. Le temps pour toi de faire ta chronique.
Très voilà, bien, justement. Avec grand plaisir.
Alors, de quoi est-ce que tu vas nous parler ?
Eh bien, je vais vous parler de rentrée télé, mais bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, je vous propose de finalement faire un peu trois focus là-dedans. De vous parler des chansons d'abord. Hein, et donc, voilà, vous recyclez mon interview de Natacha Saint-Pierre.
Natacha, attends ! Et alors, ton épaule ?
Ben voilà, toujours pas.
Hein. Toujours sale ? Enfin, peut-être que les auditeurs ne vont pas comprendre.
Oui, parce
que tu as vu Natacha Saint-Pierre.
J'ai vu Natacha Saint-Pierre à l'occasion de son
interviewé
concert.
Interviewé Natacha Saint-Pierre.
De son concert.
Tu as rencontré.
Et je l'ai rencontré. J'ai fait une interview, effectivement, que vous avez entendue sur 48FM. Et à la fin de l'interview, on a fait une photo. Et effectivement, elle a posé sa main sur mon épaule. Et voilà. Et donc, depuis, c'est ce que je disais lors de notre dernière émission d'Actuel et lui and Friends cet été. C'est que je ne me lavais plus l'épaule. Bien sûr, c'était une blague. Et donc, d'où cette relance d'aujourd'hui.
Voilà, on s'interroge.
Donc, cette rentrée télé. Les chansons, non, mais donc les chansons d'abord, j'ai pas dit la suite. Mais aussi, mais oui, non, mais t'as raison. Mais aussi, on parlera de la guerre des talks, puisqu'il y a beaucoup de talks entre le 18 et 20 heures, et il y en a déjà un qui est mort, donc va falloir.
Oui, bah, c'est pas grave, enfin, on verra tout à l'heure.
Oui, hein, oui,
mais je
on
pense
en reparlera.
On ne prie rien.
Et puis, bah, le retour un petit peu aussi des séries, donc il y a plein de choses qui reviennent. Bon, on fera un petit tour rapide de tout ça.
Ok, donc on commence alors par les chansons. Il y a des nouvelles émissions, c'est ça ?
Donc les chansons d'abord, c'est cette nouvelle émission qui remplace Shabada, une émission de chansons françaises et francophones, le dimanche à 17h sur France 3, et présentée par Natacha Saint-Pierre, voilà, on sait tout. Et bah, je vais vous laisser l'écouter, hein. Elle va nous dire justement qu'est-ce qu'on retrouve dans cette émission. Elle explique le concept pas trop mal au final. C'est à peu près compréhensible. Je pense que si j'avais
Elle est peut-être pas forcément idiote. Hein.
Non,
oui,
non,
et puis on n'est jamais si bien servi que par soi-même.
C'est ça, mais je pense que j'aurais eu plus de mal à vous l'expliquer.
Ah. Ça s'appelle Les chansons d'abord. Et comme le titre l'indique, c'est une émission qui va mettre la musique en avant-plan. Musique francophone exclusivement, ça nous était très important. Mais après, avec des artistes de partout à travers la planète qui chantent en français, on va visiter la musique à travers des décennies donc, et de la semaine en cours. Donc, par exemple, si c'est la semaine du 1er au 7 septembre, ce sera le 1er au 7 septembre 2013, donc de cette année, mais aussi 93, 83, 73. Et ça, chaque décennie sur 50 ans derrière. Et on va voir qu'est-ce qui était un tube en 73, quel artiste était sur scène, qu'est-ce que les gens écoutaient, qu'est-ce qu'on avait envie de voir et d'entendre. Il y aura évidemment pour représenter tout ça des reportages parce que je travaille avec une production qui a la plus grande banque d'images musicales en France. Donc on va avoir beaucoup d'images d'archives. Mais on a aussi une troupe de 5 jeunes talents qui sont des artistes en devenir, qui ont commencé à percer dans le milieu. Il leur manque simplement un petit peu de visibilité pour que le public les reconnaissent entièrement. Et du coup, on est en train de leur donner la lumière, de mettre la lumière sur eux. Et ces 5 jeunes-là chanteront aussi les chansons d'hier. On aura dans chaque émission 3 artistes invités qui seront là pour nous chanter leur single. Un artiste plus âgé, un artiste, je dirais, moyen de ma génération. J'ai du mal à me dire vieille, donc je dis moyen. Et des jeunes artistes qui sont là depuis un an ou deux sur la scène musicale, qui viendront nous présenter leur nouveau projet. Et il y aura aussi un reporter qui, lui, sera sur la route, qui nous présentera partout à travers la France des spectacles et ce qui se passe dans vos régions. Parce que je trouvais que les émissions à la télé sont un peu trop axées sur Paris. Moi qui vis aussi ailleurs qu'à Paris, c'est bien des fois de voir à la télé ce qui se passe chez nous. Donc on ira voir des artistes en tournée.
Bah, en tout cas, ça donne envie. Alors je ne sais pas, toi tu l'as regardé ou pas cette
émission ? Oui, voilà, je l'ai regardé et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mais effectivement...
Mais là c'est vrai qu'elle vend bien son produit, je trouve.
Oui, elle vend bien son produit. Alors... C'est évidemment sur France 3, le dimanche après-midi, donc ce n'est pas l'émission qui bouge le plus de la grille de l'ensemble du PAF français.
De toute façon, sa cible, c'est quoi ? C'est plus de 50 ans ?
Oui, c'est... mais je pense qu'elle souhaite un peu rajeunir, elle souhaite rajeunir un petit peu son public. Et justement, avec ces trois générations de chanteurs invités, faire justement venir dans cette émission des gens qui n'étaient pas dans l'ancien Shabada. Alors, le décor, on reste dans un truc un petit peu vieillot, style France 3, quoi. Hein. C'est-à-dire une espèce de...
Ils ont pas beaucoup de moyens.
Déjà, pour vous dire, le logo de l'émission est un recyclage de l'ancien logo de Question pour un champion, avec cette espèce de marque un peu de fin de truc écrit manuscrit, avec la petite queue de lettre qui s'en va. Donc, voilà.
Rien ne t'échappe, hein, parce
non,
que
non, c'est, enfin voilà, c'est un peu, c'est bon.
Se
voilà.
Rappeler de l'ancien logo. De
mais oui, enfin on voit, vous voyez un peu ce style, un peu voilà. Le décor, alors il y a un grand canapé finalement où Natacha est installée avec.
Ah, tu l'appelles Natacha, bah, toujours, ça y est. Ça y est.
Avec ses invités à sa droite, et puis bah ces cinq
jeunes talents,
bon, dont la plupart sont issus de la télé-réalité. Voilà, donc
ah oui,
de
donc
The Voice ou
plus de 50 ans à la fin.
De The Voice ou de voilà Nouvelle Star, voilà. Donc bon, c'était ce canapé. Alors c'est un peu bizarre parce que notamment quand il réévoque la carrière par exemple des invités, il chante assis, donc c'est pas forcément une position très habituelle pour
Bah c'est surtout pour le souffle, un chanteur te dira que c'est pas bon, quoi.
Voilà, donc
c'est mieux d'être debout, mais bon.
Voilà. Donc c'est une particularité. Et puis bah alors il y a une espèce d'écran. Alors j'ai pas bien compris l'intérêt de l'avoir foutu sous une voûte. Alors ça fait un écran sur lequel justement ils ont des aspects de projection, comme on voit beaucoup dans les émissions. Et ils ont mis ça sous une espèce de voûte très basse en hauteur. Donc voilà, c'est un peu particulier. Mais bon, sinon on est sur un beau plateau de télévision. On voit que France 3 a quand même mis des moyens sur cette émission. Alors après, dans ce qu'on a vu, bah, une animatrice, c'était sa première, donc je pense que ça s'affinera un petit peu, mais plutôt à l'aise finalement avec l'exercice d'animer ce type d'émission. Alors, les jeunes talents, comme je vous le disais, donc issus de la télé-réalité. Et puis, les invités, alors là, on avait eu droit à Michel Sardou, hein, qui est un des...
Là, c'est plus un jeune talent.
Voilà, donc là, c'est les invités avec l'artiste âgé, hein, entre guillemets.
Ça doit faire plaisir, ça. Ah, tu veux pas venir pour me faire l'artiste âgé dans mon émission, s'il te plaît?
Voilà, donc c'était après Emmanuel Moir pour l'artiste de sa génération et Tal pour la jeune artiste. Voilà, donc bon, c'est pas...
Et Céline Dion.
Et alors, Céline Dion, oui, était en duplex.
C'est pour la copine.
Oui, voilà, en fait, c'est Céline Dion et Michel Sardou sont les parrains de l'émission. Et donc, Céline Dion était en duplex, en faux duplex, hein, totalement truqué. Ça se voit comme c'est pas permis, mais il t'explique que c'est un duplex avec Las Vegas où elle chante. Enfin voilà, donc bon, voilà, elle était pas. Enfin, ils avaient enregistré la séquence, ils l'avaient placée là, mais bon voilà. Et donc voilà, elle souhaitait à Natacha que tout se passe bien, machin, machin. Enfin bon voilà, pas très très intéressant, mais a priori, vu que Céline Dion va venir faire une tournée en Europe dans les prochaines semaines.
De toute façon, elle sort un nouvel album en anglais, donc c'est ça. Je lui fais un peu de pub aussi. Quoi.
Voilà, mais dans les prochaines semaines, elle vient faire une tournée en France et donc elle sera. Invitée de cette émission, elle l'a promis en tous les cas. Alors après, vous avez eu l'explication du concept. Et alors, ce qui en fait, on le retrouve hein, effectivement les chansons de 93, de 83, 73, etc. Le truc, c'est que quand vous recevez Michel Sardou, il a fait des très bonnes chansons en 75, en 80.
Et mince, pas d'année et voilà. En 3, c'est ça.
Et voilà. Et donc là, vous êtes un peu coincé parce que vous êtes obligé d'aller chercher. Pour évoquer ses tubes, sa carrière, etc., vous êtes obligé d'aller chercher des chansons en 85. Voilà. Et donc là, forcément, le concept, il n'est pas forcément très, très clair. Bon. Après, les magnétos d'archives étaient plutôt pas mal faits. Il y avait effectivement des trucs assez sympas, justement, qui appuyaient bien cette logique de date, puisqu'on retrouvait un espèce de petit journal en revenant sur ce qui s'est passé dans les différentes années avec ces images d'archives. On a eu du Piaf, on a eu des choses très 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 différentes, donc c'était assez sympa dans le rendu. Donc on va voir ce que ça donne dans le temps, mais bon, je pense que ça peut effectivement renouveler un peu le style par rapport à Shabada et proposer effectivement du fait de ces jeunes talents. On a vu sur les réseaux sociaux essentiellement des réactions par rapport aux jeunes talents qui ont été suivis beaucoup sur les réseaux sociaux au niveau de leur parcours dans la télé-réalité, je pense que ça peut effectivement, et c'est peut-être bien joué pour France 3, ça peut permettre de rajeunir peut-être un petit peu cette case.
Et ça dure combien de temps ?
Ça dure à peu près 1h50. Enfin, voilà, on est resté sur
le. Il y a question pour un champion après.
C'est ça. Hein, tout à fait.
Pour un super champion, je crois, le dimanche.
Sur un super champion, tout à fait, le dimanche.
Bravo.
Ah, on sent les expertes.
Oui. Eh. Alors, donc là, c'était au niveau de la chanson. Et tu nous disais qu'il y avait aussi un deuxième fait marquant, je crois. C'est la guerre des talks.
Oui, la guerre des talks. Alors, en plus, ils sont tous, enfin, beaucoup sont positionnés sur le créneau très rémunérateur pour les chaînes. De l'access prime time, c'est-à-dire entre 18h et 20h.
On a encore droit à la pub à cette heure-là.
Voilà, voilà. Effectivement, sur le service public, il y a encore la pub. Et c'est un moment où il y a beaucoup de consommation télévisuelle, beaucoup plus que le matin. Et donc, c'est un créneau qui est crucial pour le service public, qui est très important également pour Canal+. On va y revenir, puisqu'ils ont un talk justement à ce moment-là, puisque c'est un moment où ils sont en clair et donc avec de la publicité là aussi. Et puis, pour les autres, c'est aussi un moment, effectivement, de plutôt forte audience d'une façon générale. Alors, il y a une guerre, effectivement, qui est en cours avec différents protagonistes. Alors, on va faire un peu le tour. Je pense que vous en regardez certains, donc vous pourrez dire aussi ce que vous en pensez. Alors, j'ai essayé de faire un petit classement. Alors, le plus classe, c'est quand même le grand journal de Canal+. Alors, pour cette rentrée, un nouvel animateur avec donc Antoine Decaune. Bon, qui n'a pas révolutionné le programme pour l'instant. Je pense qu'il va essayer de rentrer un peu dans le truc et essayer de le faire évoluer un peu tranquillement au fil du temps. Il y a des nouvelles pastilles. Il y a la séparation, puisque avec le petit journal qui autrefois était au milieu et donc maintenant qui est
effectivement, ça me va pas du tout. Ça.
Effectivement, est plus tard, mais qui est plus au milieu du grand journal. Donc ça donne peut-être plus de cohérence à l'émission.
C'est tard maintenant. Pour le petit journal, c'est à partir de 20h25 à peu près.
Et voilà, donc c'est effectivement des choix qui ont été faits. Pas de grande révolution malgré ce changement d'animateur.
Mais moi, je suis déçue quand même. Enfin, je reste déçue de ce choix. Antoine Decaune, pour moi, c'est un homme du passé. Et aujourd'hui, il n'apporte pas grand-chose à l'émission. Je le trouve hyper discret. Il n'est pas très pertinent. Enfin, voilà.
Bon, à suivre.
Et toi, tu Anne-Marie, donc.
Moi, je suis pas très canal à ce moment-là, donc j'ai regardé un petit peu pour me faire une idée pour pouvoir en parler aujourd'hui, mais pas de grand.
Pas convaincu non plus, visiblement.
Mais je trouve qu'Antoine Decaune, voilà, il rentre pas dans l'art des invités quelque part. C'est pas du tout pour chercher, disons, une dispute, mais. Je le trouve pas très pertinent dans ces questions. Il s'efface beaucoup, en fait. Il est très effacé.
Après, un petit peu, Denisot était aussi assez effacé, finalement. C'est un rôle d'un peu de
passe-plat.
De place-plat qui n'est pas forcément très...
Mais j'aurais peut-être vu quelqu'un d'autre. Ouais, je sais pas, ouais. Voilà. Mais bon.
Alors, on continue avec le plus convivial de ces rendez-vous, il me semble. C'est à vous, sur France 5. Donc, Alessandra Sublet est partie du programme et c'est donc Anne-Sophie Lapix qui est aux commandes de ce dîner. Moi, je trouve vraiment c'est très convivial, c'est très sympa. Enfin, je trouve c'est une forme un peu décalée et c'est finalement assez agréable. Alors, le programme, moi, je trouve, reste assez fidèle à ce qu'il pouvait être avec Alessandra Sublet, peut-être un petit peu moins enjoué. Pour Anne-Sophie Lapix, mais elle s'est quand même bien mise dans le bain, alors qu'elle n'était pas du tout dans le même type d'exercice auparavant.
C'est vrai qu'elle est très bonne en plus, Anne-Sophie Lapix. C'est surprenant quand même de ce choix, non ?
Oui, je pense que c'est effectivement, même pour elle, de quitter une interview politique qui était quand même regardée, très, très pertinente, et aller effectivement se mettre en danger tous les jours en direct quasi direct sur France 5. C'est vrai que c'est un grand rendez-vous de France 5.
Puis alors, la pauvre, pas de chance, elle invite Alain Delon.
Et oui, et Alain Delon lui fait une sortie homophobe pour sa première émission. C'est toujours le genre de truc assez compliqué à réagir parce que vous avez en face de vous une star, vous avez malgré tout, vous êtes pris par plein de détails, j'imagine, techniques, de trucs que vous n'appréciez pas.
Elle n'a pas vraiment rebondi.
Vous avez des exigences, justement, de lancer les autres programmes qui vont derrière. C'était l'excuse qui ensuite a été donnée. Donc c'est vrai que ça n'a pas forcément bien commencé, mais je pense que bon, malgré tout, ça marche pas trop mal. Il y a un petit nouveau dans l'équipe qui est Maxime Switek, qui officie dans la matinale d'Europa et qui retrouve dans l'émission un de ses concurrents qui est Patrick Cohen, donc qui fait toujours son interview un petit peu plus politique, en tous les cas d'actualité, sur France Inter le matin et donc dans C'est à vous sur France 5 l'après-midi. Voilà, on va continuer notre petit tour de ces talk shows avec le plus déluré, Touche pas à mon poste sur D8. Donc voilà, TPMP avec Cyril Hanouna et son équipe. Alors il y a beaucoup de critiques très très acerbes sur ce programme et sur Cyril Hanouna.
Il est agaçant.
Il est agaçant, on le taxe de vulgarité. Alors après,
il rigole tout le temps à ses blagues.
Oui, c'est ça. Le truc, c'est quand c'est Bouvard qui le critique sur sa vulgarité, je pense que c'est un petit peu c'est pas forcément très très. Enfin, il n'est pas forcément le mieux placé pour pouvoir le faire. Maintenant, c'est vrai que c'est une émission qui est un peu spécial, qui peut être un peu lassante en fait,
mais qui marche quand même. C'est vrai que l'an
dernier, ça marche très 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 bien, qui a permis à D8 d'avoir un succès relativement bon pour son lancement. Et je crois que c'est vraiment un élément fort pour la grille de D8. Après, le plus info, c'est sur iTélé avec l'arrivée de Laurence Ferrari, donc. Qui, vous le savez, est sur D8 en fin de matinée pour le Grand 8 avec l'équipe, avec Audrey Pulvar, Roselyne Bachelot et compagnie. Et donc là, elle anime finalement le 18-20 de iTélé avec une bande aussi de chroniqueurs et un format de débat autour de l'actualité. Et puis le dernier, avant qu'on parle de celui qui va arriver bientôt, le dernier, c'est celui qui a disparu déjà de l'antenne. Hein, il n'a pas tenu une semaine. C'était celui qui était plutôt orienté actu des médias avec Jean-Marc Morandini, donc qui s'appelait hashtag Morandini si c'était sur Énergie 12. Et donc l'émission, il était déjà sur Énergie 12 l'an dernier, avec des scores plus ou moins acceptables, mais en tous les cas qui allaient à Énergie 12. Et il était très orienté télé-réalité. Et le choix pour cette rentrée était d'aller beaucoup plus globalement sur l'actu des médias. Et c'est un choix qui a plombé finalement le programme, ce qui fait qu'il a été un des premiers mis dehors de cette guerre du talk. Et voilà.
C'est pas grave. Hein. Et alors sur France 2, il y a une nouveauté ?
Et oui, une nouveauté qui arrive la semaine prochaine. Et donc on se demande si il va... Ce talk va pouvoir prendre sa place avec Jusqu'ici tout va bien. C'est présenté par Sophia Aram et ça commence ce lundi, mais c'est-à-dire 15 jours, voire 3 semaines après les autres. Donc, le casting de l'animateur a été très long. Je pense que ça a influé aussi sur ce démarrage tardif, puisque effectivement, Sophia Aram, ça doit être le 50e choix, enfin en tous les cas, la 50e personne. Après toutes les indiscrétions qu'il y a pu y avoir, tout le paf y est passé. Mais en tous les cas, les grandes stars de France 2, et notamment Laurent Ruquier, ont refusé ce créneau, qui est un créneau très très difficile, d'autant plus par rapport à l'audience du journal de France 2 et par rapport à l'exigence de recettes publicitaires. Donc ça va être un enjeu très fort pour Sophia Aram. Espérons qu'elle se brûle pas les ailes. Donc on a découvert quand même quelques pastilles ces derniers temps, donc avec François Berléand, donc qui a l'air d'être assez original là-dedans. Et également Elie Semoun devrait faire une pastille récurrente dans cette émission. Donc je pense qu'il devrait y avoir des choses pas mal. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu les bandes annonces de ce programme, mais elles sont plutôt réussies aussi. Donc, je pense que ça s'annonce plutôt pas mal. Maintenant, effectivement, est-ce qu'ils arriveront à faire les objectifs d'audience qu'ils ont ? Je ne suis pas forcément sûr. Rendez-vous donc lundi à 18h15 pour voir ça. Alors, simplement, je vais continuer sur France 2 juste après ce talk. On retrouve, n'oubliez pas les paroles, dans sa version de 30 minutes. Mais il y a surtout le nouveau programme court de France 2. Il n'y a pas d'âge. Alors, un des sites internet consacrés aux médias a titré il y a quelques jours « Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de public » ou « Il n'y a pas de téléspectateurs ». Donc, effectivement, c'est un peu le problème de ce programme. Bon, qui me fait un peu rire, mais Bon, c'est pas non plus la grande marade, mais voilà. Donc, c'est l'histoire d'une colocation intergénérationnelle avec Claude Brasseur, Carmen Mora, Ariel Dombal, Marthe Villalonga et Jérôme Commandeur. Voilà.
Oui, c'est donc, quand même un sacré casting.
Il y a un sacré casting, mais bah, les audiences sont bof bof. Effectivement, on est sur un créneau aussi où il y a beaucoup de choses qui vont aller jusqu'à 20h. Et là, on est dans le tunnel de pub avant 20h qui est jamais très, 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 très fort.
Bon, et puis alors de façon assez brève, tu vas revenir aussi sur certaines séries ?
Oui, alors sur TF1, on a les experts Miami qui sont revenus le lundi, le mentaliste le mardi, Esprit criminel le mercredi et Profilage le jeudi. Hein, voilà.
Ouais, c'est impressionnant ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus que des séries sur TF1 tous les jours de la semaine. Plus
lundi,
cinéma.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, en tous les cas,
il y a
de la série.
Plus cinéma et plus de production. Et, wow. Ouais. Et que bah, de la série américaine.
Non, Profilage, c'est une série française.
Ah, ciel. D'accord.
Voilà.
Ah bah oui,
c'est avec la mentaliste rousse.
Oui.
Voilà. Voilà, alors sur France 2, on a eu droit pendant l'été, le lundi, à un polar antillais produit par la BBC, qui était assez original, bon, un peu bizarre, mais bon, qui a pas rassemblé des millions de personnes, mais c'était assez rafraîchissant pour l'été. Et là, c'est le retour de Castle depuis lundi dernier sur France 2. Et puis donc également l'arrivée d'une nouvelle série policière le vendredi qui s'appelle Les Limiers. Et enfin, bah, sur M6, on a eu une diffusion de FBI audio très spéciale qui a été bourrinée, hein, je crois qu'on peut dire ça comme ça, puisqu'ils ont passé par série par coup de 3 épisodes, donc forcément la série elle est passée très très vite, et ils l'ont diffusée en août et début septembre. Alors à croire que ça leur...
Ça ne les branchait pas.
Oui, que ça ne les branchait pas, et pourtant voilà, une série... très sympa, moi j'aime beaucoup cette série, c'est assez vivant, c'est un peu différent de toutes ces séries scientifiques, etc. Mais on est sur des choses un peu originales, voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, ça va être remplacé ce samedi par une nouvelle série fantastique dont on parle beaucoup, qui s'appelle Touch, avec le grand retour de Kiefer Sutherland, le héros de 24 heures. Mmh. Voilà, donc... à suivre, ça arrive ce samedi sur nos télévisions,
6, ouais.
Ouais, sur la 6. Et puis bon, on a eu le retour de Bones, qui est d'abord revenu le vendredi et qui repasse au jeudi, pour laisser la place le vendredi au retour de NCIS Enquête Spéciale. C'est les grands classiques d'M6, mais bon, voilà, là on est aussi sur quand même quelques soirées qui sont prises par des séries, et notamment des séries américaines.
Eh bien, Guillaume, merci pour cette chronique télé. Et tu vas nous proposer quelle musique ?
Alors, je vais vous proposer... Alors, ça, c'était le film de France 2 la semaine dernière, de dimanche soir. Le premier jour du reste de ta vie, la bande-annonce.
Wow. Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Chercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie plus confidentiel. Quand les certitudes s'effondrent en quelques secondes, sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies. Ciel.
du
Elle
et lui. Et voilà, on se retrouve pour la troisième partie de, d'Actuel et lui.
La meilleure.
La meilleure. Alors, pour tout vous dire, pendant cette chanson, on a accueilli déjà Ludovic, parce qu'il y a plein de choses sur la table à manger, à boire.
Bonjour Ludovic.
Voilà. Bonjour, je suis cobaye.
Et, voilà, et donc on a goûté effectivement déjà le thé en infusion.
Le thé matcha infusé à l'eau, voilà, normalement.
La glace, et on a encore un petit gâteau à découvrir. Donc,
on est gâtés.
Oui.
C'est un peu Noël.
Alors, il faut que je vous dise que c'est vert. C'est très vert. C'est pour ça qu'ils font cette tête. De toute façon, depuis que je leur ai dit que je voulais faire une chronique sur le thé matcha, ils me regardent bizarrement. D'abord en sachant pas ce que c'était dans un premier temps.
Exact.
Il faut bien le dire.
C'est vrai.
Et puis ensuite, depuis que je leur envoie des photos, hier je cuisinais, je leur envoyais des photos. Je sais pas pourquoi ils sont horrifiés. Tout ça parce que c'est un petit peu vert.
Un tout petit peu. Mais alors justement, explique-nous quand même ce qu'est ce thé matcha.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le matcha est une fine poudre de thé vert qui ne s'infuse pas, mais se mélange directement à tout ce que vous voulez. De l'eau, comme un thé classique que je vous ai fait goûter tout à l'heure, ou alors des préparations salées ou sucrées. Le thé vert matcha, c'est du gyokuro, c'est la sorte de thé broyé en poudre en fait. Le gyokuro étant le thé le plus raffiné du Japon. Il est aussi très rare parce qu'il n'est récolté qu'une seule fois à chaque printemps. À la différence des autres thés verts produits à travers le monde, le gyokuro subit une torréfaction très particulière à l'aide de vapeurs d'eau. Les feuilles, au lieu d'être torréfiées dans un récipient brûlant, sont cuites à l'étuvée pendant quelques instants. C'est ce qui leur donne cet aspect luisant et le goût un petit peu iodé que vous, voilà, qui vous a un peu marqué tout de suite et qui sera, maintenant que vous le connaissez, toujours assez facilement reconnaissable. Avant la cueillette, en fait, les planteurs vont recouvrir les théiers de draps ou de rideaux de paille de bambou qui filtrent 90% du soleil. Privée de cette lumière, la feuille de thé s'adoucit et se met à produire beaucoup, beaucoup plus de chlorophylle que si elle était restée en plein air. C'est ce traitement qui donne au thé gyokuro cette saveur fraîche et une pureté aussi incomparable.
Alors, qu'est-ce qui en fait un thé rare ?
Alors, il est connu pour avoir de nombreuses vertus. Il donne des boissons qui sont très fortement alcalines, riches en minéraux, en vitamine E, en zinc et en fluor. Et cette rareté a aussi un prix. Le gyokuro se trouve dans les boutiques spécialisées aux alentours de 150 € les 100 grammes. Alors que le matcha est vendu par pot de 20 à 40 grammes, allant de 18 à 35 € selon la qualité.
C'est déjà cher, hein,
celui-ci. Ah bah c'est très cher, oui, c'est très cher. En plus, il faut se méfier effectivement des matchas qui sont assez peu chers, vendus sur le net. Leur goût risque d'être assez fade et
ça serait dommage.
De piètre qualité. Après, avec un petit paquet de 50 grammes, ça dure quand même assez longtemps. On peut vraiment le cuisiner longtemps, quoi.
Et donc, si tu nous en parles, c'est que ce thé matcha est tendance ?
Et oui, depuis quelques temps, c'est vrai que le matcha s'est un peu vu comme un ovni parmi les thés. Je vous ai dit donc qu'il était vraiment différent, qu'il était aussi hors de prix, mais qu'il a un goût vraiment différent. Il est aussi très à la mode. On ne peut pas ouvrir un livre de recettes, un magazine de cuisine en ce moment sans avoir une ou deux recettes au thé matcha. Certains lui trouvent un goût. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais assez proche de l'algue, parfois amère.
Complètement.
Voilà, c'est vrai que... Ouais. Là, je vous l'ai fait, c'est pour ça que je vous l'ai fait d'abord goûter nature, juste infusée.
C'est vrai qu'on sent vraiment le goût du végétal. Quoi. Enfin, voilà,
exact.
Vraiment.
Moi, j'ai une question. Pourquoi nous faire subir ça, Aurélie ?
Eh bien, pour éveiller votre culture culinaire, vous faire découvrir des nouveaux
c'est
goûts.
C'est une tendance, Ludovic.
C'est tendance.
Voilà. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est original, on ne peut pas dire le contraire.
Ah oui, c'est très original et puis ça apporte une note complètement différente à des recettes qui peuvent être assez classiques. Je vous ai amené en fait des petits biscuits qui sont des langues de chat aussi. Donc c'est un biscuit que vous connaissez,
ça,
classique.
Goûté,
non, vous n'avez pas goûté encore, ils sont...
Les gâteaux sont bons.
Hein. C'est pas moi qui les ai fait, les langues de chat.
Non, mais tu nous as fait des gâteaux par
des
contre.
Cakes. Mmh. Des cakes. Mmh. Mais je
c'est
les ai...
Pas... C'est très bon.
J'ai été assez sympa avec vous. Je les ai adoucis avec du chocolat blanc pour que ça passe. Pour que ça passe mieux.
Non, mais c'est vraiment très très bon.
Voilà. Et ça change quoi. C'est vraiment différent. Je vous ai proposé une glace aussi.
C'est aussi.
C'est des arômes qu'on peut associer.
D'ailleurs, faut la manger parce que
elles font
là.
Voilà. Et alors, le thé matcha, vous en avez déjà entendu parler, même peut-être sans le savoir. C'est le thé en fait de la cérémonie japonaise du thé et le symbole un peu d'un esprit zen.
Donc la cérémonie du thé au Japon, c'est un rituel traditionnel influencé par le bouddhisme zen, dans lequel on a même l'ambiance sonore comme ça. Vous avez pas l'image, mais vous voyez les choses. Donc dans lequel le thé vert en poudre ou le matcha est préparé en fait de manière cérémoniale par un praticien expérimenté et est servi par un petit groupe d'invités dans un cadre calme et reposant.
Ça veut dire que cet après-midi, on va être complètement zen, déstressé.
Ça vous fera du bien, oui. Mais je ne vous fais pas de cérémonie du thé, parce que là, je pense que vous n'aimeriez vraiment pas...
Justement, comment ça se passe,
l'avoir...
Est-ce qu'on peut le fumer, ce thé?
Alors non, parce qu'il est en poudre. Donc voilà,
tu peux le sniffer.
Voilà.
On peut le sniffer, ce thé.
Mais après, tu as le nez tout vert, parce que vous avez remarqué que c'est un fort colorant, un fort pouvoir colorant. Donc tu vas être grillé tout de suite. Donc le matcha, dans la cérémonie du thé, il doit être tamisé, donc cette petite poudre toute fine, avant d'être mélangé à l'eau. Pour ça, on utilise donc des tamis spéciaux. Alors je vous épargne à chaque fois les noms japonais, hein, parce que déjà pour la prononciation, et puis ça ne va pas apporter grand-chose. Et ensuite, on le met donc dans une boîte spéciale. On va le passer donc à travers le tamis avec une spatule de bois ou le placer sur une pierre polie et le secouer doucement. Le matcha doit alors être placé donc dans une boîte spéciale et une petite quantité sera placée dans le bol traditionnel en utilisant une écope de bambou et une petite quantité d'eau non bouillante qui sera ajoutée de façon à le délayer en fait très lentement. La mixture est fouettée jusqu'à obtention d'un liquide de consistance uniforme, sans grumeaux, en utilisant donc un chazen, là quand même je vous le dis, le fouet traditionnel en bambou. Il ne faut qu'aucune trace de thé en poudre subsiste sur les bords du bol. Ça fait donc une préparation, vous voyez, assez consistante en fait.
Et ça, c'est une cérémonie qui est ancienne?
Oui, en fait.
Guillaume, elle en a plein la bouche, alors je pose des questions.
On peut se lever à 4h du mat' pour déjeuner, quoi.
C'est une cérémonie zen, c'est pas le petit déjeuner. Ah. Au XIIe siècle, en fait, c'est à ce moment-là qu'apparaît le matcha, cette nouvelle sorte de thé vert, donc en poudre, qui dérive de la même plante que celle qui produit le thé noir, mais non fermenté. Il est d'abord utilisé, en fait, dans les rituels religieux des monastères bouddhistes. Et au XIIIe siècle, les guerriers samouraïs commencent à le préparer et à le boire. À ce moment-là, en fait, ça fait partie de leurs différents rituels. Et ils vont poser à ce moment-là les fondations de la cérémonie du thé. Elle se développe comme vraiment une pratique de transformation et commence à évoluer avec sa propre esthétique. C'est le cas tout spécialement donc, du wabi, qui signifie raffinement, sobre et calme, et qui se caractérise par l'humilité, la contrainte, la simplicité, le naturalisme, la profondeur. C'est toujours difficile de traduire ces mots japonais, parce qu'ils ont énormément de sens. Cette pratique va mettre en valeur la simplicité. On va utiliser des objets non ornés, des espaces architecturaux particuliers, donc très simples, ces jardins zen, donc, que vous voyez sans doute. On y célèbre la beauté que le temps et l'attention vont donner aux matériaux. Voilà cette réflexion autour des objets. Au XVIe siècle, le fait de boire le thé se répand dans toute la société japonaise et à ce moment-là, donc quelqu'un qui s'appelle Sono Ryuku, et qui est la figure historique la plus connue de la cérémonie du thé, introduit le concept d'Ichigo Ishie, c'est-à-dire littéralement une fois une rencontre. C'est la croyance selon laquelle chaque rencontre devrait être considérée comme un trésor qui ne pourra jamais se reproduire. C'est un moment spécifique auquel il faut prêter une attention particulière. Et ces enseignements vont conduire au développement de nouvelles formes d'architecture, de jardin et d'art. Les principes qu'il transmet, c'est l'harmonie, le respect, la pureté, la tranquillité qui sont encore au centre de la cérémonie du thé de nos jours.
Bon, alors je ne sais pas si toi tu organises des cérémonies comme ça, anciennes et traditionnelles, mais en tout cas, tu vas nous proposer des recettes qu'on peut faire finalement chez nous.
Oui, effectivement, je vais vous proposer 5 recettes pour utiliser le matcha chez soi, sans y laisser forcément le paquet. J'en ai testé certaines, d'autres non. Donc le cake au matcha, c'est celui que vous venez de goûter. C'est une recette de cake classique, donc très facile pour commencer à cuisiner le matcha. On va simplement... Moi, dans la recette que j'avais trouvée, il recommandait 20 grammes. Et franchement, j'en ai utilisé moitié moins, 10 grammes, parce que c'était vraiment... Ouais, c'était vraiment... J'ai fait un autre test avec les... Et là, c'était vraiment pas bon.
Voilà. Là, c'est très bien. Là. C'est équilibré. Oui, c'est...
Il faut, de toute façon, il faut goûter la pâte aussi pour voir le goût. Ça donne comme ça le goût un peu du thé, mais sans vraiment que ce soit trop fort. Sinon, ça avait vraiment limite goût de poisson. Et je me suis dit que là,
par
ça
contre, c'est pas vrai clair. Que c'est très, très vert. Hein. C'est assez impressionnant.
Alors, le petit secret pour que ça reste vert, en fait, on le couvre avec un papier sulfurisé pour pas tout simplement que en cuisant. Et là, j'étais peut-être un petit peu en sous-cuisson. Ce qui fait qu'ils n'ont pas doré, en quelque sorte. Et du coup, c'est resté bien vert. Et puis, pour plus de douceur, donc c'est ce que je vous disais, j'avais incorporé un petit cœur coulant de chocolat blanc pour permettre d'apporter voilà, un peu... parce que ça peut être amer, en fait. Hein, c'est ce qu'on ressent quand
Et là, du coup, il y a un petit peu de sucre, forcément.
Ah oui, oui.
Grâce
ah bah,
à la
recette
l'apport,
du cake. Hein,
oui, et puis il y a quand même le chocolat blanc qui est très sucré.
Encore en plus, ouais.
C'est ça qui permet sans doute, effectivement, un goût plus...
Enfin, plus doux, oui.
Plus doux et plus appropriable. Par,
et puis, parce que c'est vrai que le thé, quand on le boit comme ça, c'est quand même très amer.
Hein. Amer, un peu
astringent. Et là, le cake, il passe bien, il y a un petit peu de sucre, c'est plus agréable.
Alors, une autre recette que j'aurais pu vous proposer, c'est les macarons au matcha. Mais là, il faut déjà toucher un peu plus parce qu'il faut faire des macarons. Et là, c'est un peu plus complexe. Les premières fournées sont souvent assez moches, mais quand on les réussit, c'est vrai que la teinte verte, ça peut être rigolo après quand on présente ces macarons, voilà, d'avoir des petits macarons verts. Panna cotta, coco matcha. Là, à nouveau, je pense qu'il faut apporter un peu de douceur, donc le lait de coco. Va apporter le côté onctueux, original, et pour un dessert en plus qui va être assez léger, du coup, la panna cotta.
Ça peut être effectivement aller assez bien ensemble.
Ouais, ouais.
Je crois que je plane.
T'as perdu Ludo.
Et pourtant, il n'y a plus le grand bleu qui passe.
Hey, t'es zen là ?
Je suis trop zen.
Ouais. Ah ben voilà.
C'est bien, on va parler comme ça maintenant.
Exactement.
J'aimerais savoir si Martine boit régulièrement de ce thé-là. Elle peut nous appeler et on peut la passer en direct au 04 66 Martine. 31 59 68. Martine, nous t'attendons
venez.
À standard.
Mais venez sinon, vous n'êtes pas loin bon, avec Jean-Claude.
Vous avez fini parce que déjà je lui ai fait goûter
des
matchas depuis deux jours.
Elle est au lit alors, elle est malade.
Eh ben non, j'ai encore deux recettes pour toi. Les sablés, donc tu fais une recette de sablés et tu hop, mets un petit peu de matcha dedans. C'est pas ça. Ça, c'est des langues de chat, mais tu peux goûter.
Pardon.
Oui.
Mais je te coupe, c'est vrai que je le disais tout à l'heure en antenne, ça rappelle un peu le thé d'Aubrac, même si c'est pas tout à fait le même goût, mais effectivement, il se fait aussi des sablés au thé d'Aubrac. Je pense qu'au niveau du goût, ça doit être assez marrant aussi.
Mais je pense que l'inconvénient du thé d'Aubrac, c'est qu'il doit falloir passer par la phase aqueuse, en fait, le faire infuser dans l'eau.
Non, pour après, dans les sablés, il y a du...
Ah, ils mettent carrément la feuille.
Feuilles, ouais,
ah, d'accord.
Des petits bouts de feuilles.
Ouais. D'accord. Parce que sinon, voilà, sinon on peut
sachant
faire...
Sachant que ce n'est pas du thé, il faut bien préciser.
Oui, c'est des plantes, mais on peut faire infuser dans l'eau et le travailler ensuite, ou alors là, directement... utiliser la poudre de matcha directement dans sa préparation. Ce que j'ai fait pour ma dernière recette, donc, qui était la glace au thé. Donc, comme Guillaume nous avait parlé sorbetière cet été, et donc j'ai testé, j'ai fait une crème anglaise et là aussi j'ai émulsionné avec du chocolat blanc. Moi j'aime bien chocolat blanc et matcha pour effectivement adoucir. Ouais, donc,
c'est très bon la glace.
Ouais,
hein.
Bah, voilà, tant mieux.
Les autres, ils n'aiment pas, mais...
Voilà. Bon, Anne-Marie n'aime pas la glace.
Oui, mais j'aime pas la glace de toute façon, en général. Donc,
Moi non plus.
Et on peut en goûter sans acheter un paquet, parce qu'en plus, on voit que c'est quand même un petit peu cher. Ou...
Oui. Alors, en fait, il existe des produits tout prêts qui peuvent permettre une petite initiation. Donc, il y a notamment un miel vert au matcha et yuzu. Donc, le yuzu, c'est un petit citron japonais. Un petit qui est très fort en goût. On fait des thés parfumés avec aussi qui sont délicieux. Alors, par exemple, il y a ce miel vert matcha yuzu est produit par Délices Essence. On le trouve sur un site internet, notamment Madeleine Market. C'est un miel qui est tout vert, qui est parfumé au matcha et donc le yuzu. Et c'est pas mal pour ceux qui cherchent plutôt une version sucrée pour découvrir. Donc, c'est un tout petit pot, 5,90 €. Voilà, on peut goûter. Puis après, il y avait d'autres, moi, j'ai goûté la première fois comme ça. C'est le Palais d'été qui propose, en fait, un chocolat blanc parfumé au thé matcha ou des petits bonbons durs, pareil, au thé matcha, et qui permettent de goûter ce côté petit bonbon. Et franchement, je trouve qu'on devient vite accro, quoi.
Bien, bah écoute Aurélie, merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ce thé matcha.
Hein, ou pas.
Si, parce que maintenant, tu te sens pas bien.
Au moins, tu le connais.
Si, hein, si.
On se sent
très bien.
Bien.
Tu pourras briller en société.
Ouais.
En disant que tu manges des trucs verts.
Non, non, mais le gâteau est très bon, mais c'est grâce au chocolat blanc quand même. Hein. On sent ce goût chocolaté.
C'est votre côté
non,
enfant.
Mais bon, c'est une découverte culinaire et on te remercie Aurélie. Et du coup, pour rester dans cette thématique, tu vas nous faire écouter quelle chanson ?
Alors, je vous propose Paul McCartney qui, sur l'album Chaos and Creation, In the Backyard, nous propose l'éloge d'une tradition cette fois so british, le rituel du thé, mais version anglaise, avec les petits gâteaux anglais confectionné par la bonne, le paysage botanique, le profil de jardin anglais, enfin le sport croquet. Enfin bon, tout est raffiné, minutieux, et il prend même l'accent des nobles anglais dans cette chanson en roulant un peu les airs. Donc voilà, English Tea.
Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me. Any sunny morning, what a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses. Listen most attentively. Do you know the game croquet? Peradventure we might play. Very gay, hip hooray, any Sunday morning. It's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning.
Actu,
elle
et lui.
Et voilà, c'est la fin de cet actuel et lui. Alors, pour tout vous dire, Aurélie est en train de manger un gâteau. Donc,
mais je peux quand même te dire au revoir et dire au revoir à nos auditeurs. Oh, c'est pas bien, le problème.
On va peut-être leur souhaiter une bonne sieste, du coup, parce voilà. Qu'ils sont ouais. Tellement détendus maintenant.
On espère qu'ils sont super zen.
Voilà, et puis ben, on se donne.
D'ailleurs, on a perdu Ludovic, ça y est, voilà,
il est parti dormir.
C'est ça. Et puis, donc, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. Voilà, on vous parlera de plein de choses diverses et variées. Alors peut-être l'appel de notre auditrice
Martine.
Je sais pas.
Est-ce Martine que ou pas Martine? Ah, Martine nous a appelé.
Bon, alors on va se connecter. Alors juste deux petites secondes, c'est parti. Et bonjour, est-ce que vous nous entendez?
Je vous entends très bien.
Ah,
bonjour Martine.
Bonjour Anne-Marie, bonjour Guillaume, bonjour Aurélie.
Bonjour et merci de nous écouter fidèlement.
Moi, bonjour maman, de toute façon, je pense que tout le monde a compris.
Les gâteaux au thé matcha sont très bons. Je n'ai pas été malade. Moi, j'aime pas trop le thé, mais j'aime bien les petits gâteaux. Et la glace aussi est très très bonne. Voilà.
Voilà. Mais non, mais je suis totalement d'accord avec vous, hein, même si les autres ont plutôt fait des...
La grimace.
La grimace, on peut le dire. Hein, mais,
effectivement. Sauf pour les gâteaux, Anne-Marie. Oui. Bon.
Voilà. Mais bon, voilà. Donc,
on va pas en manger tous les jours, mais.
voilà, mais c'était original. Et puis, merci de nous écouter aussi régulièrement et de suivre les aventures d'Actuel et lui. Et puis.
Oui, c'est vrai qu'on est des auditeurs fidèles et nous vous soutenons. Vous pouvez continuer. On s'amuse bien à vous écouter.
Merci.
Je vous souhaite à tous une bonne journée.
Merci
à vous aussi.
Merci.
Des bisous.
Au revoir.
Au revoir.
Bisous, bisous.
Et voilà, et donc, voilà,
N'hésitez pas, vous aussi, à nous appeler, hein.
Même si vous n'êtes pas notre maman.
Voilà, vous avez le droit. N'hésitez pas. Donc, merci à tous.
Merci et à bientôt.
À bientôt.
Ciao, ciao.
Au revoir. Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu, elle et lui.
Elle.
Lui. D'actuel.
Et lui.